Vous écoutez
RMC.
Il est 7h59, merci d'avoir choisi RMC la radio, RMC Story la télé.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Un Noël pas comme les autres en perspective. 7 parents sur 10 disent qu'ils font attention à la moindre dépense cette année en vue des fêtes de fin d'année selon un baromètre qu'on vous dévoile ce matin sur RMC. Deux adolescents de 16 ans incarcérés, mis en examen pour un projet d'attaque antisémite repéré pour des propos terroristes sur une messagerie. On va revenir là-dessus. Et c'est peut-être aujourd'hui que sera scellé le sort de la guerre en Ukraine. Pourquoi ? Parce qu'une délégation américaine est en Russie aujourd'hui pour parler du plan de paix avec Vladimir Poutine.
Vous êtes peut-être parents, vous gagnez peut-être bien votre vie, mais pourtant, vous êtes nombreux à vous serrer la ceinture à l'approche de Noël.
7 parents sur 10, précisément, qui disent qu'ils rognent sur leurs dépenses en ce moment pour pouvoir faire des achats et gâter quand même leurs enfants. C'est le résultat du baromètre IFOP pour l'association Don Solidaire qu'on vous dévoile donc ce matin sur RMC. La preuve ici, écoutez en région parisienne avec Cassandre Brault.
Des chaussettes, des lettres pour le plus petit.
Angelica a déjà commencé ses cadeaux de Noël.
Vous voyez, mais ça, c'est des choses que j'aurais pas achetées précédemment. Bah parce que j'aurais pris quand même un plus haut de gamme. Parce que mon budget, il restera aujourd'hui.
Cette mère de 3 enfants a commencé à mettre de côté dès le mois d'août et ça n'a pas suffi. Alors elle doit faire des arbitrages.
On a rogné plutôt sur le budget vêtements. On va rester sur les vêtements qu'on avait l'année dernière ou il y a encore 2 ou 3 ans.
Léa aussi traque la moindre économie pour avoir un peu de marge.
Bah, je mets de l'essence que si j'ai besoin de me déplacer, par exemple. Les courses, pareil, c'est que quand j'ai besoin, enfin, je vais pas avoir et descendre dans mes placards. Cette année, c'est compliqué et on fait d'autant plus attention parce qu'on a envie de faire des cadeaux à nos enfants.
Mais difficile pour ses parents de ne pas céder à la culpabilité. Ils sont même plus de 55% selon le baromètre Don Solidaire à avoir honte de ne pas pouvoir gâter leurs enfants autant qu'ils le voudraient.
C'est un peu le moment où on a envie de faire plaisir, on a envie de donner tout ce qu'on peut donner, quoi. Et du coup, le fait de devoir faire attention, de tout compter, de réfléchir et de se restreindre aussi, parce qu'il y a des choses où on se dit bah non, cette année, c'est pas possible. C'est très très frustrant. Et c'est contraignant.
Et pour cette mère de famille, cette année, les cadeaux de Noël, ce sera seulement pour les enfants.
Ce sont deux adolescents de 16 ans qui ont été mis en examen par un juge antiterroriste redoutant un projet d'attaque antisémite contre des personnes de confession juive interpellées à Strasbourg et en région parisienne. Leur profil est en fait une des menaces redoutées par le renseignement, à savoir des jeunes répondant aux idéologies du groupe État islamique et qui échangent, comme c'est le cas pour l'un d'eux dans cette affaire, qui échangent du contenu terroriste dans une boucle WhatsApp. Voilà ce que nous dit l'ancien coordinateur du renseignement à l'Élysée, Jérôme Pinault.
On le voit aussi, il y a une nouvelle manière de préparer des projets. C'est-à-dire des jeunes qui ne se connaissent pas, qui peuvent être à différents endroits de France et qui, sur les réseaux sociaux, entrent en contact et imaginent commettre des attentats. C'est d'ailleurs souvent comme ça qu'ils se font repérer. Ces réseaux sociaux ne sont pas à l'abri de la surveillance des services de police et des services de renseignement.
Voilà, Jérôme Poirot, spécialiste du renseignement, donc ce matin sur RMC. C'est à 9h que doit être jugé à Montauban le septuagénaire qui a écrasé un œuf sur la tête de Jordan Bardella le week-end dernier. Durant une séance de dédicace de Jordan Bardella en pleine tournée en ce moment, portée par un sondage Odoxa qui le donnait récemment vainqueur de la présidentielle. Sondage qu'il n'a même pas testé, comme on dit Marine Le Pen, dans l'attente de son procès en appel pour l'affaire des assistants parlementaires européens. Invité d'RMC ce matin, 8h15, Marine Le Pen et Hélène Terzian du service politique et RMC, vous nous dites qu'elle cherche à reprendre la main.
Oui, on l'a vu arpenter plusieurs marchés de Noël ce week-end dans le Pas-de-Calais. Voilà Marine Le Pen ce matin dans notre studio, manière de montrer qu'elle ne lâche pas. Certains en interne ayant émis le sentiment ces derniers temps qu'elle renonçait. Une reprise en main quand Jordan Bardella prend la lumière en pleine tournée de dédicaces et qu'il écrase dans un sondage tous ses rivaux au second tour alors que Marine Le Pen n'est pas testée. Dans ce même sondage, il est même préféré chez les sympathisants pour 2027. On a joué avec le feu, regrette une figure mariniste. Pourtant, c'est Marine Le Pen qui a mis en place ce passage de relais avec Jordan Bardella pour dire à ses électeurs, explique un cadre RN, n'allez pas voir ailleurs si elle est empêchée. Et si elle peut se présenter mais qu'il reste plus haut dans les sondages, le même est très clair, il n'y aura pas de primaire, elle sera candidate.
Tous les regards sont braqués vers Moscou ce matin où l'émissaire de Donald Trump se rend pour discuter directement avec Vladimir Poutine du plan de paix pour mettre un terme à la guerre en Ukraine. Le fameux plan qui a été travaillé depuis la première version. Antoine Hollard, vous êtes aux États-Unis pour RMC. Les Européens, et Emmanuel Macron en tête, il a d'ailleurs téléphoné à Donald Trump hier soir, se demande avec quelle conviction les Américains vont défendre ce plan aujourd'hui.
Écoutez, Steve Witkoff va essayer de vendre à Vladimir Poutine la version remaniée du plan de paix de Donald Trump. La Maison-Blanche se dit très optimiste, même si ce texte sur lequel Américains et Ukrainiens se sont mis d'accord laisse de côté les questions les plus sensibles, à commencer par les concessions territoriales que Moscou exige. Les Américains, en tout cas, sont convaincus que l'Ukraine n'est pas en position de force dans les discussions. Trump estime notamment que les Ukrainiens sont en difficulté militairement et que du coup, Zelensky va devoir accepter des concessions. La visite de Witkoff intervient justement alors que les Russes revendiquent la prise de Pokrovsk, une ville stratégique à l'est de l'Ukraine. Le Kremlin, qui diffuse d'ailleurs des images de Poutine en tenue militaire, en train de visiter un poste de commandement, une séquence clairement destinée à montrer aux Américains que sur le champ de bataille, la dynamique est du côté de Moscou.
Il est 8h05 sur RMC, la directrice du Louvre n'était pas au courant des soucis de sécurité dans la fameuse galerie Apollon, où vous savez que les malfrats ont dérobé les joyaux de la couronne en entrant par la fenêtre. Malgré le rapport de la Cour des comptes, un audit aussi datant de 2018, Inès Zegloul, elle dit même dans le journal Le Parisien que ce n'était pas un sujet pour elle.
Elle le martèle. Pour moi, la galerie d'Apollon, c'était un dossier clos. À ma prise de fonction, relate Laurence Descartes dans les colonnes du Parisien, on m'a dit que s'il y avait bien une chose sur laquelle on pouvait être rassuré, c'était les joyaux de la couronne. Leur vitrine avait même été rénovée. La présidente les qualifie de solides.
Visiblement, les vitrines n'étaient pas suffisamment.
Élise Muller, surveillante du musée, rit jaune. La représentante syndicale dit avoir pris connaissance de ses propos.
Avec douleur, oui. Les fragilités, elles étaient connues. Enfin, pour peu qu'on s'y intéresse. Mais visiblement, faire des soirées et des inaugurations, c'est plus utile que d'empêcher des vols.
Et le plan de sécurité, prévu depuis plusieurs années, pourquoi n'était-il pas déjà mis en place, interroge-t-elle. À cette question, Laurence Descartes botte en touche. Nous étions sur le point, avant le vol, de le déployer concrètement, assure-t-elle.
On parle régulièrement des débordements dans le monde du football. Eh bien, un cap a certainement été franchi à Nice. C'était dimanche soir. Après la défaite des Niçois à Lorient, Nice en pleine crise. En ce moment, 6 défaites consécutives, eh bien, environ 400 supporters sont allés exprimer leur mécontentement auprès des joueurs devant le centre d'entraînement. Une fois la nuit tombée, le ton est monté. Le directeur sportif Florian Maurice et deux joueurs Terem Moffi, Jérémy Boga ont particulièrement été visés. Ce supporter présent dimanche racontait hier soir ce qui s'est passé. C'était dans l'afterfoot. Écoutez sur RMC.
Arrivé sur place, il y a le bus qui arrive au bout de 15-20 minutes, vers 23h15. Il y en a qui sont cagoulés, il y en a qui sont pas cagoulés. Les fumigènes sont sortis, il y a des chants très hostiles, le bus se rapproche, le bus est stoppé. T'as des policiers d'un côté, de l'autre, les agents de sécurité de l'OGC Nice. Et puis là, il y a Florent Maurice qui sort en premier, qui se prend une marée de hurlements. Il est chahuté. J'ai vu des joueurs pris à partie. Évidemment, c'est Moffi, Boga et Maurice qui ont pris très très cher.
Des coups ont été portés à ces deux joueurs, en l'occurrence en arrêt pour 5 et 7 jours, et qui portent plainte. Il n'y aura pas l'entraînement avant demain à Nice. Et puis une des infos du matin, c'est qu'il y aura bientôt un nouveau parc Astérix. Vous connaissez la musique ? La Compagnie des Alpes, qui est à la tête du parc, annonce un parc prochainement en Allemagne, le deuxième hors de France, sans doute en 2030, le premier hors de France, sans doute pour 2030, avec une première zone qui sera dédiée spécialement à Idéfix, le chien d'Obélix. 900 visiteurs quand même par an sont espérés.
C'était donc le journal de Quentin Vinet. Dans un instant, Arnaud Demanche va nous rejoindre, et puis dans 5 minutes, le face-à-face avec Marine Le Pen, dès 8h15 sur RMC et BFM TV. Et puis il y aura aussi Nicolas Canteloup, bien sûr, et ses imitations. Ne le manquez pas, parce qu'aujourd'hui il reviendra sur l'interview de Marine Le Pen. Ce sera donc à 8h50 sur RMC, mais pour l'heure il est 8h07. A tout de suite.
RMC, Apolline Matin. C'est tous les jours de manche.
Tous les jours.
Il est 8h09, vous êtes bien sûr RMC et RMC Story. Arnaud Demange, salut.
Tous les jours, y compris le 2 décembre, Apolline.
Ouais.
Et c'est donc l'occasion d'ouvrir la deuxième case de notre calendrier de l'Avent du LOL.
Ouh là là.
Chaque jour, une nouvelle blague pour bien démarrer la journée. Mmh. Vous êtes prêts?
Mmh.
Bon, Mathieu, admettons, t'as deux poussins et t'en veux qu'un. Qu'est-ce que tu fais?
Un
dans poussin.
Oh.
Et voilà.
Oh.
C'est bon de rire. Sinon, Apolline, dans un instant, vous recevez Marine Le Pen.
Oui.
Une jeune éleveuse de chats dynamique qui est aussi, on le sait moins, patronne du groupe RN à l'Assemblée.
Ah bon ?
Et on s'amuse bien au groupe RN. Vous avez entendu Sébastien Chenu en réunion publique dimanche soir. La phrase est tellement drôle. Il était tout fier qu'il y ait du monde partout au RN. On écoute.
Il y a du monde dans les réunions publiques, il y a du monde dans les soirées Beaujolais, il y a du monde dans les soirées Kems. J'allais dire dans les soirées Kemsex, ça n'a rien à voir.
Je n'ai absolument pas compris cette situation. C'est-à-dire, c'est complètement fou.
Il a dit hier sur BFM TV, j'ai fait exprès, c'était une blague,
c'était du dimanche, etc.
C'était pour rigoler. Ceci dit, j'ai quand même appris un truc. Il y a aussi des soirées chemsex à Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan. Bon, alors il est tout seul, mais il prend un Viagra et zou. Allez, Debout la France.
Oh, oui,
Nico. Pense à De Gaulle. On en aura une. Volodymyr Zelensky, elle est drôle. Volodymyr Zelensky qui était hier avec Emmanuel Macron pour discuter de la paix. Alors, scoop, c'est mal barré. Oui. Pourtant, Emmanuel Macron s'est battu. Hein. Il a passé des coups de fil toute la journée. Et puis, il est allé voir Zelensky pour lui dire « Alors, j'ai une bonne nouvelle. Je viens d'avoir Poutine au téléphone. J'ai été très ferme. Et c'est plus 10%, mais 50% de l'Ukraine qui veut. Je suis désolé, je comprends pas. D'habitude, je suis un négociateur super. Si, si, je te jure, regarde la réforme des retraites. Regarde le Mercosur. Et alors, en parallèle, il y avait aussi une délégation ukrainienne qui négociait ce dimanche à Hallandale Beach, chez Mathieu Bédard, en Floride. C'était casse-gueule, ça. Les émissaires russes et ukrainiens en Floride, sous 25 degrés, avec des filles en bikini sur la plage, c'est un coup à ce qu'ils veuillent pas rentrer, ça. Dans leur pays en guerre, plein de neige au mois de décembre. La prochaine fois, les gars, prenez pas de risque, faites ça au Havre, c'est réglé en 2 heures. Hein, vous êtes d'accord? Da. Et vous? Da. Bon, ok, on se barre du Havre. Oh, ouf, tant mieux.
Le maire de Saint-Étienne, ce bon vieux Gilbert Rioux, a été donc condamné à 4 ans de prison ferme dans l'affaire du chantage à la sextape.
4 ans ferme, bing, c'est bien fait. Après, quand t'as vécu toute ta vie à Saint-Étienne, la prison, bon, bah, t'es un peu habitué. Il a aussi été condamné pour détournement de fonds, puisque l'argent de la mairie de Saint-Étienne avait servi à payer toute l'organisation du stratagème et du chantage. Mmh. Alors que bon, franchement, encore une fois, à Saint-Étienne, il y avait mieux à faire avec cet argent qu'on a visité. Et en plus, tout ça, c'était quand même pour garder le pouvoir à Saint-Étienne. Je veux dire, on parle pas de la Maison Blanche. Mmh. C'est décider de quel type de fleurs on va mettre sur les ronds-points, décider des horaires d'ouverture du Super U. C'est la honte, quoi. Quelle honte pour les LR. Un minable chantage à la sextape. Alors qu'au RN, ils font des soirées chemsex hyper bien organisées. J'entends un petit chat qui arrive. Eh bien, c'est Marine Le Pen pour la grande interview à tout à l'heure.
Ça se passe donc dans un instant sur RMC et BFM TV. Mais avant ça...
RMC vous offre un fabuleux Noël.
Et c'est l'heure de faire gagner Ambre. Bonjour Ambre, félicitations. Oui. On dirait Maria Carré. Ambre, ça y est, vous êtes déjà complètement dans l'ambiance.
Complètement, à fond, à fond.
Alors Ambre, vous connaissez le principe, je vais ouvrir la petite case de ce calendrier de l'Avent avec vous.
Allez.
Et vous avez gagné un séjour Bellambra, club et hôtel d'une valeur de 2000 euros. Yes, à vous les vacances. Vous faites
quoi?
Vous faites... Merci papa RLC. Vous faites quoi dans la vie, Ambre?
Coiffeuse, bon, technicienne. Hein.
Mais ben, on est très 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 heureux pour vous. Vous allez pouvoir passer en vacances grâce à RMC. Ouais. En tout cas, vous mettez l'ambiance. Je pense que dans le salon chez vous,
dans le salon ça y va. Ouais,
il y a
la
une
musique
bonne,
et tout,
bonne ambiance. On vous embrasse. Très belle journée à vous. Il est 8h13 et dans un instant, ça se passe donc sur RMC et BFM TV. Mon invité, c'est Marine Le Pen. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h17 et vous êtes bien sûr à RMC et BFM TV. Bonjour Marine Le Pen.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes bien sûr la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, députée du Pas-de-Calais. Vous êtes l'ancienne et peut-être future candidate à la présidentielle. On va y revenir bien sûr. Mais je voudrais commencer par parler de Sébastien Lecornu qui vous a reçu hier, qui vous recevra à nouveau demain. Il vous a reçu hier pour parler des questions de défense, demain pour parler des questions de budget. Et il a eu cette phrase hier, il s'est adressé au patron français. Il leur a vanté, je cite, les mérites de la vitalité démocratique que nous traversons aujourd'hui. C'est le sens de l'histoire, dit-il, à propos de ce qu'il se passe en ce moment même à l'Assemblée. Est-ce que vous partagez l'idée que c'est une vitalité démocratique ?
Non, mais la réalité, c'est qu'il veut défendre l'idée que le fait de ne pas avoir de majorité absolue à l'Assemblée nationale serait devenu quelque chose de normal et même de souhaitable. C'est d'ailleurs un discours qui a été relayé de manière assez étonnante par la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Je ne le crois pas. Je crois qu'il est évidemment beaucoup mieux d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale parce qu'une politique, elle doit avoir une cohérence avec des objectifs qui sont choisis par les Français. Donc vous comprenez bien que Sébastien Lecornu cherche à échapper à la dissolution et donc à de nouvelles élections, comme d'ailleurs l'ensemble des partis aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Leur seul objectif, c'est pas de voter le budget, c'est pas de défendre les Français, c'est pas de lutter contre le chômage, c'est pas tout ça. Leur seul objectif, c'est de ne surtout pas avoir de nouvelles élections, de ne surtout pas retourner devant les Français.
Alors lui, il dit que son seul objectif, c'est d'avoir un budget pour la France. Il dit sans budget, on ne peut pas y arriver. Il dit d'ailleurs à ses patrons à qui il écrit, vous avez exprimé vos inquiétudes sur la fiscalité, je les entends et je mesure pleinement votre besoin de stabilité, mais vous avez aussi compris le vrai danger, dit-il, pour le pays, ce serait l'absence de budget. Et c'est quand même vers ça qu'on s'oriente, non ?
Il y a des chances. Oui, c'est l'hypothèse la plus crédible, en effet. Ça veut dire qu'en réalité, toute la procédure qui a consisté à, pour les uns, se trancher un bras, pour les autres, se trancher une jambe, pour ne surtout pas aller précisément devant les Français, électeurs, les n'aura servi à rien. Maintenant, si vous voulez, les grandes déclarations de M. Lecornu à l'égard des entrepreneurs, pardon, mais il faut quand même se souvenir d'une chose, c'est que dans son budget, celui qu'il a présenté, il y avait 28 milliards de dépenses supplémentaires et 19 milliards de prélèvements supplémentaires. Voilà. Qui ont été baissés par l'Assemblée nationale à 12 milliards.
Enfin, voyez, il dit de vous que vous avez voté 34 milliards d'augmentation d'impôts.
Bah, il ment. Voilà, il ment.
Qui ment ? Lui,
tous, Renaissance, tout cela. Parce que, en réalité, ils se basent sur un dispositif que nous avons voté, qu'ils évaluent à 26 milliards. Ils sont les seuls, d'ailleurs, à l'évaluer à 26 milliards, puisque Bercy ne l'évalue même pas, qui consiste à faire payer aux multinationales étrangères le même niveau d'impôt qu'aux TPE PME française. Est-ce que c'est pas normal? Donc c'est un dispositif de lutte, en réalité, contre la suroptimisation qui s'analyse en une fraude.
Vous en avez voté beaucoup des taxes, quand même.
Non, pas tant que ça. Non, c'est beaucoup opposé à des taxes. Parce que je crois que l'extrême gauche
la surtaxe sur les
revenus,
l'impôt sur la fortune improductive, vous en parliez à l'instant, cette surtaxe sur les bénéfices des multinationales, le doublement de la taxe sur les géants du numérique, la taxe sur les holdings patrimoniaux, l'exit tax.
Non, mais
ça
d'abord,
fait beaucoup de taxes.
Alors, on va les reprendre une par une. D'abord, notre philosophie. Notre philosophie, nous l'avons posée dès le départ et nous l'avons suivie. Faire baisser les prélèvements sur les TPE-PME et faire baisser les prélèvements sur les classes moyennes et populaires. Et nous avons réussi à le faire. D'ailleurs, Madame de Montchalin l'a annoncé à plusieurs reprises qu'effectivement, à l'issue de ces votes, il y avait eu une baisse des prélèvements sur les TPE-PME et les classes moyennes et populaires. Et c'est vrai, une mise à contribution des grandes multinationales, notamment étrangères et des hauts patrimoines par l'intermédiaire de l'impôt sur la fortune improductive. Bon, ça là, c'est pas le nôtre, puisque nous, c'était l'impôt sur la fortune financière.
Mais quand vous dites, il peut s'adresser en effet au patron Sébastien Lecornu, puisque dans son budget initial, il y avait quand même beaucoup de taxes. Vous aussi, vous avez besoin peut-être de les rassurer, les patrons. Vous en êtes où avec les patrons ? Certains disent de vous que vous êtes devenu communiste au moment de ce budget. Ça, c'est une partie de la droite qui vous accuse d'être carrément devenu communiste. D'autres disent que vous draguez les patrons. Vous en êtes où ?
Oui, la droite nous traite de fascistes, la gauche nous traite de communistes, ça veut dire qu'on est a priori plutôt...
Enfin maintenant, c'est la droite même qui vous traite de communiste.
Plutôt bien positionné. Nous subissons un peu ce que le général de Gaulle subissait également à son époque, c'est-à-dire l'outrance des deux camps. Donc nous, très clairement, nous rencontrons les chefs d'entreprise, nous leur indiquons que nous souhaitons une réindustrialisation du pays. Nous avons donc présenté et voté, quand ça a été présenté par d'autres, la baisse des impôts de production, parce que nous pensons que c'est un des freins à la réindustrialisation, mais que nous ne sacrifierons pas notre système de protection sociale. Et que nous pensons donc que il ne faut pas continuer à augmenter indéfiniment les prélèvements, qu'il faut faire des économies. Et nous en avons proposé dans notre contre-budget 57 milliards d'économies. Voilà. Le problème, c'est que nous n'avons pas pu encore analyser cette partie-là du débat budgétaire.
Est-ce qu'il y a aujourd'hui un ras-le-bol fiscal ?
Mais il y a non seulement un ras-le-bol fiscal, il y a non seulement un problème de consentement à l'impôt, mais je veux dire, je le dis depuis des années, il y a surtout un problème de consentement à la dépense. Les Français ne sont plus d'accord avec la manière dont on dépense leur impôt. Voilà, ça c'est une réalité que ne veulent pas voir nos dirigeants. Ils considèrent, les Français, que plutôt que de leur demander en permanence des efforts, il faut faire des efforts spectaculaires sur l'immigration, il faut faire des efforts sur l'Union européenne, il faut mener une vraie politique de lutte contre la fraude et il faut mener une vraie politique de baisse des dépenses du train de vie de l'État. Voilà.
Je vais vous poser la question dans un instant du 49.3, de la censure, mais puisque vous évoquez la question de l'industrie, deux questions très concrètes, l'une sur ArcelorMittal, l'autre sur Chine. ArcelorMittal, vous avez eu une forme de complicité sur le vote de la nationalisation d'ArcelorMittal, c'est-à-dire que vous avez usé d'une sorte de stratagème qui existe à l'Assemblée nationale et qui est parfaitement légal, c'est que vous êtes sorti de l'hémicycle, vous n'avez donc pas pris part au vote, mais vous avez laissé le vote sur ArcelorMittal passer. On est d'accord, vous n'étiez pas contre la nationalisation, non, mais vous n'avez pas été jusqu'à le voter.
Ah, non, mais ça n'est pas ça. Nous étions pour un autre dispositif, qui est le dispositif de la Golden Share, c'est-à-dire, en fait, l'État a une part qui lui permet d'impulser la politique de l'entreprise et déterminer
les objectifs. C'est-à-dire pas de nationalisation, mais une part importante.
Voilà, exactement. Mais à partir du moment où nous n'avons pas ça, nous ne nous sommes pas opposés, en réalité, à la nationalisation.
Mais ça veut dire qu'à la fin, vous êtes pour ou contre la nationalisation ?
Non, mais pourquoi ? Parce que si nous n'avons plus d'acier, tous les grands discours qu'on entend de la part de nos dirigeants sur le réarmement de la France, sur le sauvetage de l'automobile, mais ce sont des paroles qui n'auront aucun effet. Nous devons avoir la maîtrise
oui, mais vous l'assumez pas complètement.
Nous l'avons pas.
En fait, non, parce que ça n'est pas. Vous n'êtes pas pour la nationalisation d'ArcelorMittal, mais vous n'êtes pas non plus complètement contre.
Madame, notre position, c'est la Golden Share. C'est notre choix. Si le reste du choix, c'est s'en désintéresser totalement et laisser mourir en réalité la sidérurgie ou nationaliser, pour nous, la nationalisation est le moins pire de ce qui peut nous arriver.
Il y a Brandt, là, qui se retrouve dans une situation extrêmement compliquée. Il y a 700 salariés qui sont prêts à reprendre, d'ailleurs, Brandt. Ça sera définitivement tranché par le tribunal de commerce demain. L'État est prêt à mettre 5 millions. Il y a d'autres millions d'un côté, mais il manque 10 millions. Est-ce que vous vous dites qu'il faut que l'État, là-dessus, aille pour mettre de l'argent dans Brandt?
Oui, mais mettre de l'argent, si on ne met pas en place les conditions pour que la concurrence déloyale dont sont victimes nos entreprises cesse, ne sert à rien. Et on va parler de Chine. Moi, j'ai envie de parler de Chine parce que je n'ai jamais vu un exercice d'hypocrisie comme celui auquel j'ai assisté à l'Assemblée nationale.
C'est-à-dire, je reprécise les choses.
C'est délirant.
Chine, dans la tourmente, donc, depuis 3 semaines, ou en tout cas dans le collimateur du gouvernement, qui clairement souhaite sa suspension. Et c'est vendredi que la procédure de suspension engagée par le gouvernement contre Chine sera examinée par le tribunal judiciaire de Paris. Vous êtes pour, vous êtes contre la suspension?
C'est pas le sujet, pas là, madame. Ça fait 25 ans que tous les gens-là, qui sont en train de hurler à la mort sur les conséquences de leur propre choix, ont décidé d'ouvrir nos frontières à la Chine et notamment à l'époque aux vêtements chinois. On a dit, vous êtes en train de préparer une catastrophe pour nos entreprises et pour la filière textile. Il a fallu quelques années seulement pour que la filière textile française disparaisse. C'est-à-dire que c'est eux qui étaient pour l'ouverture des frontières. Et nous, quand nous disions qu'il fallait des droits de douane, on nous traitait de tous les noms, on nous disait qu'on allait faire vivre le pays en autarcie, que c'était épouvantable, que ça n'était pas le sens de l'histoire, etc., etc. Bon, ce qui devait arriver, arriva. C'est-à-dire que nous avons été submergés par les vêtements chinois.
Alors maintenant, on fait quoi ?
Oui, mais attendez. Oui, mais attendez, parce que moi, je veux que les gens comprennent ce qui s'est passé. Pendant des années, la grande distribution était assez contente de cela, parce qu'en réalité, elles achetaient le t-shirt 50 centimes. Elle le revendait 8 ou 9 euros et les marges que faisait cette grande distribution étaient considérables. Et à l'époque, je disais et j'écrivais il y a plus de 15 ans de ça. Hein. Mais est-ce qu'il y a sur le ticket du t-shirt le prix du chômage que ça engendre en France? Parce que ça change tout au prix définitif.
Donc on a été complices.
Donc non, mais c'est pas ça. C'est que à compter du moment où ces marges sont mises en cause parce que ces énormes producteurs chinois vont vendre directement aux particuliers.
Deviennent eux-mêmes les distributeurs.
Là, tout d'un coup, voilà, là, tout d'un coup, on s'agite. Alors, moi, je suis pour, évidemment, la protection de notre marché, je l'ai toujours été. Je suis pour que on mène une guerre à mort aux produits dangereux, je le dis depuis des années, il faut faire respecter nos normes.
Mais ça, c'est une question des normes. Pas...
Oui, mais c'est un sujet majeur, parce que gouvernement...
Mais moi, écoutez, je vous interrogeais sur la question du commerce.
Mais attendez, parce que le gouvernement, que dit-il? Il dit qu'il faut mettre une taxe sur les petits colis, parce que vous comprenez, il y a une partie de ces produits qui sont dangereux. Ok, donc vous
alors,
allez continuer.
C'est
donc
pas exactement ce qu'il dit.
Ça, c'est ce qu'ils disent. Si.
Alors, il dit deux choses. Il dit d'une part, effectivement, qu'il faut davantage vérifier. D'ailleurs, le ministre du Commerce a été lui-même à l'aéroport pour ouvrir les colis, vérifier que c'était aux normes, pas aux normes, etc. Et puis, par ailleurs, il y a cette question, effectivement, de taxer les petits colis. Certains, comme Philippe Juvin, le rapporteur du budget, voulait carrément mettre 50 euros de taxes pour que ce soit totalement dissuasif, on va sans doute retomber autour de 2 euros. Mais il y a la question des normes d'un côté, il y a la question du commerce de l'autre.
Bah, ils ont bien mélangé les choses, je peux vous dire, à l'Assemblée nationale, en nous expliquant que nous serions ceux qui allaient faire s'étouffer les bébés avec les jouets qui ont des petits objets. Moyennant quoi, je leur ai répondu, donc vous allez vous faire étouffer les bébés, mais vous aurez pompé une taxe au passage. Parce que la taxe, évidemment, c'est celle qui va être payée par les gens qui n'ont plus de pouvoir d'achat. Comprenez ça? C'est-à-dire qu'ils sont responsables de tout, du début jusqu'à la fin. Pourquoi les gens, ils achètent sur ce type de plateforme? Parce qu'ils n'ont plus les moyens. Ils ne peuvent plus acheter, ils ne peuvent plus se faire de, ne serait-ce que de petits plaisirs, parce que les salaires ne sont pas suffisants, parce que les impôts sont trop importants.
J'entends parfaitement ces contradictions, Marine Le Pen, mais à la fin, il faut quand même trancher. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je vous repose la question. C'est-à-dire, est-ce qu'on
maîtrise
les psycholies? J'ai l'impression que
frontières.
Non.
On maîtrise nos frontières.
Est-ce qu'on interdit l'entrée de ces colis?
On arrête de baisser le nombre, par exemple, d'agents de la DGCCRF.
Qui sont
de baisser
qui contrôlent
le
la qualité
nombre
des produits.
De douaniers. Voilà. On arrête de faire cela. Et moi, je vais vous dire.
Mais on ne suspend pas Chine.
Et je vais vous dire, très honnêtement, tant qu'ils ne respectent pas nos normes, si. Il faut qu'ils respectent nos normes.
Suspend.
Mais il faudra qu'ils le fassent aussi, madame, dans l'agriculture. Parce que nos agriculteurs aujourd'hui qui sont confrontés à cette difficulté et qui voient arriver sur les étals des marchés des produits qui sont cultivés avec des pesticides ou avec des produits chimiques qui sont interdits chez nous, ils se disent pas mais il y a une injustice majeure, parce qu'il est évident que lorsqu'on utilise un certain nombre de pesticides, on a une compétitivité meilleure.
Donc vous êtes pour la suspension, pas pour les taxes, parce que vous dites que ce sera payé par les consommateurs qui se tournent vers Chine.
Je suis heureuse de voir que au bout de 30 ans, on s'aperçoit qu'en réalité, le Rassemblement National avait raison de dire que les frontières, c'est un élément de protection. Il ne s'agit pas de les fermer à double tour. Il s'agit, c'est comme la peau, vous voyez. C'est un filtre, en réalité. C'est une barrière qui empêche les choses néfastes de pouvoir entrer.
Vous avez peut-être entendu les propos de Nicolas Dufourcq, qui est le patron de la BPI. Il dit, je le cite, « Le tsunami chinois détruira toutes les PME industrielles, de la Pologne jusqu'à la Bretagne. Il faut que l'Europe se ferme temporairement le temps de se réarmer. »
Oui,
mais vous signez.
Oui, d'accord, mais encore faut-il d'abord se réarmer. Parce que si vous interdisez, si vous voulez, ces importations, dont je tiens à vous dire que tous ces produits-là, dont on critique la qualité, etc., pour l'instant d'ailleurs, parce que moi, la crainte que j'ai, c'est que la Chine augmente la qualité de ses produits, comme elle l'a fait
dans
d'autres sujets. Mais tous ces produits-là, ils sont vendus partout. La réalité, madame, ils sont vendus partout. Ils sont vendus dans toutes les chaînes qui existent en France et qui vendent des choses à bas prix. Tout vient de Chine. Voilà. Et je suis pas sûr que le contrôle qualité soit fait. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, moi, j'ai proposé qu'il y ait, qu'on mette en place une responsabilité au dernier vendeur. C'est-à-dire que le dernier vendeur, les enseignes doivent
vérifier
la garantie, doivent apporter aux consommateurs la garantie du respect des normes européennes dans ce qu'ils vendent.
Marine Le Pen, Emmanuel Macron veut une labellisation des médias. Il veut, je cite, que les journalistes garantissent à leurs lecteurs qu'ils ont vérifié l'information avec une déontologie dont ils sont garants entre eux. Et hier soir, l'Élysée a publié une vidéo sur laquelle il parle même de fake news qui aurait été propagée non seulement par un certain nombre de médias, mais aussi par des politiques. Ils disent, quand parler de la lutte contre la désinformation suscite la désinformation. Comment vous jugez cette question ?
Bon, d'abord, je trouve cette vidéo indigne, voilà, parce que ce n'est pas le rôle de la présidence de la République, qui précisément doit être au-dessus des partis et ne doit pas descendre dans l'arène, surtout en s'attaquant directement à plusieurs médias. Ça, c'est déjà la première des choses. Deuxièmement, cette idée de labellisation est évidemment extrêmement dangereuse. Voilà, elle est extrêmement dangereuse. Et l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est de maîtriser l'information.
Alors, il dit que ce seraient les journalistes eux-mêmes qui jugeraient leur propre affaire.
Les journalistes choisis par qui ? Par Emmanuel Macron ? Donc, ça revient au même. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, il faut arrêter de penser qu'il y a des journalistes, que le fait d'être journaliste vous rend intrinsèquement neutre et bienveillant.
Est-ce que ça veut dire Marine Le Pen ?
On sait très bien, par exemple, les problèmes qu'il y a avec le service public. Et c'est si vrai qu'il y a actuellement une commission d'enquête de.
Quand vous dites les problèmes qu'il y a avec le service public.
Un problème de neutralité, évidente. Problème évident de neutralité du service public, bien évidemment. Cette commission d'enquête, d'ailleurs, j'en suis convaincu, impulsée par notre ami Éric Ciotti, le démontrera. Le problème, c'est que souvent on dit, mais vous voyez, il y a des télévisions privées aussi qui sont pas neutres. Mais c'est pas le sujet, en réalité.
Mais
le sujet, c'est
vous-même
que
vous choisissez
une télévision privée,
les journalistes qui vous interrogent pas.
Une télévision privée a le droit de ne pas être neutre. Moi, je considère que l'ARCOM ne devrait surveiller que le service public. Une télévision privée, elle a parfaitement le droit de ne pas être neutre. Mais le service public, lui, qui est payé par l'ensemble des contribuables, ne peut pas choisir un camp politique contre un autre. C'est pas possible. Ou alors, elle renonce au financement des électeurs qui lui déplaisent.
Donc dans ces cas-là, il faut que ce soit une privatisation des services publics.
Oui, mais de toute façon, moi je suis pour la privatisation pour d'autres raisons que celle-là. Certes, des raisons d'économie, mais aussi parce que ça permettra d'éviter justement que l'on puisse suspecter ou prouver que le service public n'est pas neutre.
Marine Le Pen, les municipales, il y a quand même quelques questions qui se posent autour d'un certain nombre de candidats RN, le candidat en Corse notamment, un ancien nationaliste qui avait été condamné à de la prison pour terrorisme. Je suis quand même surprise, vous aviez tous dit qu'il fallait un casier judiciaire vierge pour être candidat. Est-ce que ce candidat en Corse, vous l'adoubez ?
Je l'ai rencontré. Il est en effet nationaliste. Il a été aspiré en quelque sorte dans une spirale de violence. À l'époque, c'était comme ça. Il avait 18 ans et il a fait sauter la porte d'entrée d'une sous-préfecture. C'est éminemment condamnable et il le dit d'ailleurs. Il a fait 8 ans de prison pour cela. Donc là, pour le coup, la condamnation.
Donc il est pardonné.
Pour le coup, la condamnation a été sévère. Il a renoncé à la violence. Il est, je pense, le meilleur porte-parole, d'ailleurs, de cette renonciation à la violence. Il souhaite défendre l'identité corse tout en restant dans la France. C'est un garçon qui mérite d'être connu parce qu'il a des idées qui sont vraiment très solides. Et par conséquent, oui, j'ai donné mon accord à cette candidature.
Fréjus, c'est quoi le problème avec David Racheline ?
Ah, écoutez, il faut lui demander à lui.
Non, mais je vous le demande aussi à vous, parce que, semble-t-il, il n'aura pas l'investiture du parti pour les municipales. Dans le même temps, j'ai encore vérifié ce matin, officiellement, en tout cas sur le site, il est toujours président, vice-président du RN.
Oui, c'est en voie de règlement.
Il ne sera plus vice-président du RN.
En tout cas, moi, je souhaite qu'il ne soit plus vice-président du RN.
Il est viré, David Racheline.
Non, ça se passe pas comme ça.
Non, mais je veux dire, il ne peut plus prétendre.
Ça se passe pas comme
ça. Vous avez été déçu,
surprise. Il y a un certain nombre de procédures qui doivent avoir lieu.
Bon, il est encombrant aujourd'hui.
Honnêtement, je suis pas du tout sûr que ça passionne les Français, quoi.
Bah, on est au moment des municipales. Oui, David Racheline, vice-président du RN, c'était pas un candidat ou une personnalité très éloignée du cœur du parti, quand même.
Oui, mais vous avez raison. Mais voilà, la réponse à ces questions-là remplit pas le frigidaire, quoi.
ça remplit pas le frigidaire, on vient de le remplir là, on vient de parler des taxes et des questions du budget, mais je pense quand même que c'est une question très importante avant le... Enfin, vous avez l'air de minimiser, peut-être
non, je minimise, mais enfin, il était quand même vice-président du RN. Il y a un certain nombre de procédures qui sont en cours et qui permettront d'éclaircir cette situation.
Martine Vassal, la candidate LR à la mairie de Marseille, a laissé la porte ouverte à l'idée d'une alliance. Alors depuis, elle dit, c'est pas exactement ce que j'ai voulu, mais enfin, quand on lui a demandé s'il y aurait une possible alliance de second tour avec le RN, elle n'a pas dit non, elle a dit on verra à ce moment-là. Est-ce que vous seriez prêt à faire une alliance avec Martine Vassal?
Non, mais d'abord, c'est pas à moi de répondre à ça, c'est au candidat de Marseille. Mais ce que je note, c'est que le rejet absurde de toute capacité d'alliance, notamment dans des élections municipales au second tour, par les Républicains, en réalité, est en train de s'effondrer, parce que c'est pas tenable. Voilà, c'est pas tenable parce que les électeurs, les Républicains, ne comprennent pas pourquoi leur direction continue à faire élire des LFI plutôt que de faire élire des Rassemblements nationaux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc on est au bout, en fait, de la logique de ce barrage républicain auquel les LR, qui est tout sauf républicain d'ailleurs, auquel les LR ont participé lors des dernières élections législatives.
Municipales donc, présidentielles. Pourquoi Jordan Bardella serait pas le candidat à la présidentielle? Je veux dire, le candidat, quoi.
Mais il n'y a pas de primaire chez nous, donc les choses sont extrêmement claires. Si je peux être candidate, je le serai. Si je ne peux pas être candidate, et il sera mon Premier ministre, si je ne peux pas être candidate, il le sera.
Voilà. Et si vous pouvez être candidate, pourquoi il ne le serait pas?
Et pourquoi le serait-il et que je ne le serais pas?
Peut-être parce qu'il est en train de devenir quelqu'un de très bien placé. Vous avez peut-être regardé le Figaro ce matin, ce sondage IFOP, je le cite. Le casting présidentiel est encore loin d'être figé, mais à un an et demi du scrutin élyséen, Jordan Bardella apparaît toujours comme un prétendant incontournable. Parmi les possibilités testées, ils ont testé votre candidature et la sienne, mais ils vous devancent.
Oui, mais vous voyez la force de notre duo, la force démocratique en fait de notre duo, c'est que Jordan Bardella sera le premier ministre à ne pas avoir été nommé, mais à avoir été choisi par les Français. Et moi, je vais vous dire très clairement, je ne peux que me réjouir que la confiance que les Français ont en Jordan Bardella soit aussi solide.
Mais pourquoi ce serait le plan B ? Mais c'est-à-dire que si ça se trouve, en effet, vous ne serez pas en mesure d'y aller.
Oui, mais je sais ce que vous souhaitez faire.
Non, moi je ne souhaite rien du tout. Je regarde effectivement les sondages et j'ai d'ailleurs posé la même question à Jordan Bardella.
Parce que nous en avons décidé ainsi.
Pourquoi il ne serait que le plan B ? Pourquoi dire aux Français, finalement vous avez le plan B ?
Parce que nous en avons décidé ainsi.
Mais ça peut changer.
Et je vais vous dire une chose. La manière dont les élites, une partie de la magistrature, les médias, maintenant les instituts de sondage s'y mettent, cherchent à contourner en fait, les Français, pour pouvoir imposer leur vue, choisir les candidats, ça ne fonctionne pas chez nous. Chez nous, c'est nous qui décidons. Vous voyez?
Ah, c'est vous.
Voilà. Non, c'est nous. C'est nous, c'est Jordan et moi qui décidons. Voilà. C'est comme ça. Donc, vous pourrez faire ce que vous voulez, vous agiter, chercher à créer de la tension ou de la dissension. Il n'y en aura pas. En revanche, vous aurez le choix de faire ça. Avec tous les autres partis, ça marchera très bien.
Je suis quand même surprise que vous vous disiez que les Français puissent se satisfaire d'un plan B.
Je comprends pas.
C'est-à-dire qu'au fond, vous êtes en train de dire, voilà, c'est moi la candidate, et si je peux pas y aller, vous vous contenterez de Jordan Bardella.
Mais ils se contenteront pas, puisqu'il a une cote de popularité qui est de plus en plus forte. Et encore une fois, je m'en réjouis. Donc c'est ça, j'ai l'impression qu'il gêne ceux qui nous combattent ou ceux qui cherchent à nous affaiblir. C'est que nous avons au Rassemblement National deux personnalités qui ont la confiance des Français. Et ça, ça a l'air de gêner. Bien, c'est comme ça. Et ces deux personnalités, elles vont combattre ensemble. Et si, par une torsion du droit et une torsion de la démocratie, j'étais empêchée d'être candidate, ce qui n'est évidemment ce à quoi je ne me résous pas. Hein. Soyez bien conscients.
Vous voulez être candidate, espérez être candidate, vous pensez que vous le serez.
Mais je pense surtout que ce serait honteux qu'on m'empêche de l'être. Oui. Et donc, je vais me battre en appel, devant la cour d'appel, et je vais défendre mon innocence, et donc défendre le droit aussi des Français à pouvoir voter pour qui ils le souhaitent.
Mais on a senti, ou en tout cas peut-être j'ai senti, parfois une forme de découragement chez vous.
Oui, enfin, vous savez, ça, j'ai entendu ça 50 fois. J'ai été enterré, je pense, 10 fois dans ma carrière. Je me demande d'ailleurs si au bout de 10 fois, le 11e enterrement est gratuit, peut-être.
Je ne vous enterrerai pas, je pense non, mais le découragement est humain.
Oui, mais il est sûrement humain. Mais il n'est pas trop dans mon ADN, moi. Ça ne fait pas partie de mes défauts. Parce qu'en politique, le découragement est un défaut. Il faut être combatif. Il faut être persévérant, parce que c'est ainsi qu'on arrive à défendre son pays et son peuple.
Si vous êtes innocenté, vous serez candidate, c'est sûr.
Sûr.
Sûr et certain.
Sûr et certain.
Il n'est pas question qu'à ce moment-là, vous vous disiez, parce que les choses ont évolué d'ici là, encore une fois, c'est dans longtemps, que finalement, peut-être Jordan Bardella serait un meilleur candidat que vous.
Ça n'est pas notre choix commun.
S'il était un meilleur candidat que vous. Pardon, je vous repose la question parce que je suis quand même surprise que cette option n'existe pas dans votre esprit.
Ça n'est pas notre choix commun.
Est-ce que ça devient encombrant d'être deux sur la ligne de départ ?
Non, au contraire. C'est une très grande force pour nous d'être deux sur la ligne de départ parce que croyez-moi, il va y avoir du boulot pour deux vu la situation catastrophique de notre pays que nous laisse nos prédécesseurs, si tant est que les Français nous fassent cette confiance.
Je rebondis sur un point que vous venez de dire. Vous venez de dire, si je suis la candidate, il sera mon premier ministre, et vous vantez comme, justement, une force démocratique que d'avoir un premier ministre choisi. Je vous pose la question à l'inverse. Si toutefois vous ne pouviez pas être candidate et que c'était lui qui était le candidat, alors serait-il dans la même logique sur un ticket, vous comme Premier ministre, lui comme président?
Non, je l'ai dit, je ne souhaite pas, dans ces conditions-là, dans cette hypothèse qui reste hypothétique par définition, être Premier ministre, mais je serai son premier soutien.
Vous serez son premier soutien? Vous pourriez être présidente du parti dans ce cas-là?
J'ai déjà donné, si je puis me permettre.
Ça veut dire que vous partiriez?
Non, je serai son premier soutien. Mais on peut, vous savez, être un soutien, y compris un soutien très très présent et je l'espère utile, sans obligatoirement avoir quelque chose sur sa carte de visite.
Un dernier mot sur l'agression dont il a été victime. Il a reçu un œuf à Moissac, Jordan Bardella. L'homme sera jugé en comparution immédiate aujourd'hui. Il a 74 ans. Il avait déjà lancé un œuf sur Éric Zemmour. Est-ce que cet œuf, c'est grave, c'est très grave, c'est pas grave? Je vous ai pas entendu vous exprimer dessus.
Non, mais c'était un symptôme en réalité. C'est un symptôme d'une violence en politique que commence à subir tout le monde et que nous subissons depuis 30 ans. Ça fait 30 ans que ça dure. Et à l'époque d'ailleurs, ça ne scandalisait personne. Parce que dans notre pays, les gens sont plus scandalisés en fonction de qui vous êtes qu'en fonction de ce qu'on vous a fait. Moi j'ai des milliers d'images de nos militants agressés, les bus attaqués dans les meetings. Et à chaque fois c'est la même chose, c'est l'extrême gauche. Est-ce qu'on va le dire ou est-ce qu'on va pas le dire en fait? De manière quasi systématique, les violences en politique sont le fait de l'extrême gauche. Ce sont eux qui empêchent la tenue des conférences de presse par la violence. Personne d'ailleurs n'en appelle à la liberté de la presse dans ces cas-là. Ce sont eux qui essayent d'empêcher la tenue des meetings. Ce sont eux qui s'introduisent dans les meetings pour y semer la perturbation. Ce sont eux qui font des contre-manifestations en permanence, qui vous empêchent de faire des marchés, etc., etc. Donc, c'est à eux qu'il faut demander des comptes maintenant. Et c'est à eux qu'il faut dire la violence en politique. C'est non.
Est-ce qu'il y a des moments où vous avez peur vous-même, Marine Le Pen?
Non.
Donc ni découragé, ni peur.
Oui, non, mais ça aussi, c'est pas trop dans mon ADN.
Non, mais j'imagine que quand vous nous dites que la violence est là depuis 30 ans, qu'elle ne cesse de monter, j'imagine qu'il y a quand même des moments où on s'inquiète.
J'avais 8 ans et j'étais dans mon lit une bombe a explosé et a détruit l'intégralité de l'immeuble dans lequel nous dormions. Donc, voilà, la peur, du coup, s'est évaporée à partir de ce moment-là.
Quand on a vécu ça, on n'a plus peur de rien?
C'est un peu vrai, oui.
Est-ce que les choses se sont quand même dégradées depuis?
Les choses se sont...
Pas au point, je veux dire, non, évidemment, les... quand non, on a vécu les... un attentat.
Non.
Mais est-ce que le climat global dont vous dites qu'il y a ce dernier symptôme...
Pas pour nous, parce que nous, encore une fois, nous avons été traités de manière un peu particulière depuis 30 ans. Mais de manière générale en politique, il y a un climat de violence qui s'installe. Et il y a aussi, et c'est... aussi grave, je crois, en tout cas presque aussi grave, un climat d'acceptation de cette violence, de justification de cette violence. Et moi, quand j'entends des journalistes, des éditorialistes parfois, ou des responsables politiques venir justifier la violence au motif qu'elles tombent sur leurs adversaires, je suis scandalisé. Parce que, je le répète ici, je l'ai déjà dit devant vous, quand on a des principes, on ne les adapte pas en fonction de la personne qui peut en bénéficier. Les principes qu'on réclame pour soi-même, on les accepte.
Vous les défendriez.
On les défend, évidemment.
Aussi pour des élus d'extrême gauche dont vous venez parler.
Des adversaires, bien évidemment.
Merci Marine Le Pen d'avoir répondu à mes questions.
Merci
ce matin.
Merci de votre invitation.
Sur RMC et BFM TV, il est 8h47. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
8h50. Face à Canteloup.
Et tous les matins, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Marine Le Pen, la vraie, est restée avec nous. Rebonjour Marine Le Pen. Et elle était donc avec nous ce matin. Elle est restée dans ce studio. Christine Kelly, notre consoeur de CNews, tenait à être là.
Bonjour Marine Le Pen. Après cette interview au cordeau, corsée et exigeante de ma collègue Apolline de Malherbe, je vous propose de revenir dans un univers plus confortable, plus cosy, plus ouaté, au sein du spa Christine Kelly.
C'est doudou.
Où, après un gommage de votre inéligibilité à base d'huile de fleur de karité, nous vous interrogerons tout en douceur, en respectant bien sûr votre épiderme, pour vous demander comment allez-vous, Marine Le Pen. Et ensuite, bien sûr, je vous proposerai de rejoindre en cabine à l'espace manucure ma collègue Laurence Ferrari, qui vous posera une question sans concession. Marine Le Pen, quelle est votre couleur préférée afin de choisir le vernis à ongles à la...
Je vais paraître encore plus méchante. Madame Le Pen, je vous laisse répondre à Christine Kelly.
Oh, écoutez, ça fait un bien fou. Je remercie même Kelly parce que je suis tellement épuisé, pour tout vous dire, même madame. Répondre à toutes ces questions, c'est bien gentil, mais ça ne remplit pas le frigidaire.
Voilà. Alors, j'ai bien compris.
Oui. Non, parce que maintenant qu'on est en antenne, je peux vous le dire, c'est fatigant. Toutes ces questions sur Jordan, Bardella par-ci, Bardella par-là. Oui, il est populaire, je m'en réjouis. Oui, il est très haut dans les sondages, je m'en réjouis. Ça ne veut pas que je suis réjoui. Le premier qui me dit que je ne suis pas réjoui, il en prend une. Voilà, bon, et puis qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis coincé. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Quand je dis du bien de Jordan, vous, les journalistes, vous n'êtes pas contents parce que vous n'avez pas votre os à ronger, c'est ça, hein? Et si je dis la moindre petite chose, ça y est, c'est la meute médiatique qui s'emballe. Hein, alors du coup, qu'est-ce que je fais? Voilà, je souris, je me réjouis, je nie, je fais semblant, je botte en touche, poker face, voilà.
C'est forme de comédie, finalement, ce que vous affichez?
Mais évidemment, parce qu'au fond de moi, je suis verte, qu'est-ce que je vous dis? Ça fait 40 ans que je sème, que je laboure, et pour une fois que ça pousse, et ça pousse très fort, je peux vous dire. Alors, le sondage, c'est l'eau qui va récolter. Il y a un an, de Malherbe, c'était encore moi la star. Et aujourd'hui, je fais quoi?
Je précise qu'elle rit.
Je suis réduit à quoi? Faire sa première partie, c'est ça, hein? Pour essayer de me réconforter, mon entourage me dit: mais c'est pas grave Marie, c'est pas grave, tu feras toujours Premier ministre. Mais j'en veux pas, moi j'ai rien à foutre d'être Premier ministre. C'est que les emmerdes, hein? Vous croyez que je rêve de destin Elisabeth Borne et Edith Cresson? Non, hein? Pardonnez-moi, excusez-moi. Heureusement que j'ai mes chats. Parce qu'avec Echo, moi j'ai pas besoin de tricher avec eux. C'est avec les animaux qui peuvent vous comprendre. Même si c'est vrai que...
C'est vrai que quoi?
Non, je...
C'est vrai que quoi?
La dernière fois, Jordan est venu prendre un café à la maison, et il y a Jazz et Chalimar. Oui, c'est mes deux chats préférés. Qui sont venus se frotter contre son pantalon en velours. Même eux, ils sentent que le vent est en train de tourner, je le sens bien. Ça fait mal.
On va vous laisser reprendre vos esprits, Madame Le Pen. En tout cas, vous avez des amis sur qui compter. Éric Ciotti tenait à vous dire un mot.
Oui, bonjour Marine. J'ai envie de dire bonjour marraine. Vous avez vu, hein? Oui, je sais être flatteur. Je voulais t'assurer, puisque nous nous tutoyons dans le privé, là on est dans le privé, je voulais t'assurer de mon soutien après le terrible attentat qui a frappé Jordan. En tant que futur ministre intérieur de Jordan, J'espère qu'on retrouvera rapidement l'œuf qui a lâchement agressé notre futur président. Alors, c'est vrai qu'un portrait robot de l'œuf mis en cause a été diffusé, et je ne sais pas par quel raccourci on est arrivé jusqu'à moi. J'en suis venu être interrogé par les enquêteurs et même soupçonné d'être l'œuf incriminé. C'est totalement désobligeant. Heureusement, au moment de l'attentat, j'avais un alibi. J'étais à Nice en train de crever les pneus de Christian Estrosi.
C'est crédible. Merci, monsieur Ciotti. Robert Ménard nous a rejoint. Bonjour, monsieur Ménard. Vous avez de nouveau installé une crèche de Noël dans votre mairie de Béziers. Bien que vous ayez déjà été condamné à 8 reprises quand même pour cette raison, monsieur Ménard.
Non, mais attends, arrête avec tes monsieur Ménard, Apolline. Non, on se tutoie. C'est franchement, on va se tutoie. Je tutoie tout le monde. Salut, Marine, tu vas bien? Non, mais on marche sur la tête. On me traite de raciste parce que je fais une crèche dans ma mairie. Non, mais attends, j'ai pas fini ma phrase. Parce que j'ai fait une crèche dans ma mairie. Non, mais moi, raciste, t'as vu la gueule des rois mages? Bon, on voit bien qu'ils viennent pas de chez nous, les rois. Et puis, quand même, Joseph et Marie et leur petit bébé, Jésus, c'est quand même des gens. Mais je m'interromps moi-même tout seul, tellement je sais pas, tellement ma pensée est construite, tu vois. Joseph et Marie, ils viennent de Palestine, donc m'accusez-moi de racisme. Franchement, Marine, au moins, à Hénin Beaumont, t'as pas de problème de crèche.
Mais pourquoi?
Mais attends, Apolline, t'as déjà vu des cathos dans le Nord? Non, on va pas se raconter la messe. On n'a jamais vu autant de musulmans que dans sa région. Non, je le sais, je suis allé à Roubaix. Arrête de t'interrompre moi-même. Non, mais j'ai rien contre les gens là-bas. Là-bas, c'est le charme du Maghreb, tu vois, à Roubaix. Bon, sauf qu'il n'y a pas le charme, il y a juste le Maghreb. Non, mais le Nord-Pas-de-Calais, tu vois. Non, mais je résume, mais si je suis caricatural. Non, mais je t'explique. Le Nord-Pas-de-Calais, c'est l'Algérie avec les températures de l'Ukraine. J'ai pas raison. Voilà.
Merci beaucoup. Merci Nicolas Coquelou et Marine Le Pen qui restent dans ce studio.